9h-10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, demain peut-être une nouvelle vague migratoire massive comme en 2015. C'est la menace du président turc Erdogan qui a annoncé hier avoir déjà ouvert les portes de l'Europe.
Qu'avons-nous fait hier ? Nous avons ouvert les portes et à l'heure actuelle, à partir de ce matin, environ 18 000 personnes ont franchi ces portes. Mais aujourd'hui, ce nombre pourrait atteindre 25 à 30 000. Et nous ne fermerons plus ces portes à partir de maintenant et cela continuera.
La Turquie, dont l'armée subit des attaques meurtrières du régime syrien soutenu par l'aviation russe, dangereuse escalade entre Moscou et Ankara et horreur humanitaire pour près d'un million de Syriens pris au piège de cette guerre dans la province d'Idlib. Que veut la Turquie ? Réponse dans un instant de son ambassadeur en France, Ismail Aki Moussa. Au générique également, Haïm Korsia, le grand rabbin de France, figure du judaïsme, qui croit aussi en la République, seul capable de réconcilier le pays. Son manifeste politique s'intitule « Réinventer les aurores ». Et puis Renaud Capuçon, le grand violoniste, se raconte dans un livre « Mouvement perpétuel, une vie de musique » qu'on va explorer avec lui dans une interview en musique.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Ismail Aki Moussa.
Bonjour.
Ambassadeur de Turquie à Paris, vous avez donc rouvert votre frontière avec la Grèce, où des milliers de migrants tentent depuis hier de gagner l'Europe. Nouvel afflux encore ce matin. Vous ouvrez un peu, vous ouvrez en grand. C'est un avertissement, un chantage ?
Il y a beaucoup de dits sur ce sujet. Il faut revenir en Syrie. Il s'agit d'un État en faillite. Nous avons averti, je reprends vos termes à vous, cher monsieur, nous avons averti pas seulement aujourd'hui et hier, depuis le début de la crise syrienne. On a dit, mais écoutez, chers amis, Européens, Occidentaux, Américains et autres, nous ne pouvons plus épauler ce fardeau seul.
Le fardeau des réfugiés.
Le fardeau des réfugiés, oui. Il y a déjà 3 700 000 en Turquie. Il y a presque 2 millions dont on assume la subsistance à l'intérieur de la Syrie. Et maintenant, il y a plus de 1 million en route. Mais franchement, c'est beaucoup. Et ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, cher monsieur ? On a dit, ah, les Turcs, vous, bravo, vous faites ça bien, très bien, nous vous applaudissons, nous apprécions ce que vous avez fait, vous avez vraiment assumé des responsabilités nobles et considérables en lettres. Rien de plus. Ou très peu. J'en reviens un peu à l'attitude de l'Union européenne. Nous avons passé un accord le 18 mars 2016, n'est-ce pas ? Cet accord est connu sous le nom migratoire en Europe, mais il y a quatre piliers. Le pilier migratoire, le pilier financier, le pilier union douanière, le pilier négociation, oui. Le pilier libéralisation de visa,
etc. En gros, fermeture des frontières contre aide financière. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, que cet accord ne tient plus, qu'il est caduc ?
L'accord ne tient pourrait tenir, mais pour des raisons que je viens d'énoncer, l'Europe n'est pas à la hauteur de ses promesses.
Alors que demandez-vous aux dirigeants européens ? Que réclamez-vous pour refermer vos portes ?
Les portes, déjà, vous venez de dire qu'elles sont ouvertes. Ce qu'a dit le président de la République, c'est que c'est une autre manière d'exprimer cette difficulté que nous avons en face de nous. Et nous sommes quasiment seuls à faire face à cela. Le ministère des Affaires étrangères a fait un communiqué le 28, donc vendredi dernier, en disant que nous n'avons pas changé de régime en la matière.
Oui. Que réclamez-vous à l'Europe ?
Qu'est-ce qu'on dit ? C'est valable pour n'importe quel pays démocratique. Une fois que les migrants sont dans un pays, mais vous ne pouvez pas les obliger à rester à l'intérieur. Ceux qui sont en Turquie, ceux qui bougent vers les frontières grecques ou autres, ben ils se sentent un peu alarmés par ce qui se passe à Idlib. Nous avons perdu 34 maintenant de nos soldats qui sont tombés. Ce qu'on réclame, ce qu'on demande, c'est que on avait passé un accord avec les Russes, au vu et au su de tout le monde, France, Allemagne, les États-Unis, etc., pour préserver cette dernière zone d'escalade qui est Idlib. Il ne fallait pas toucher à son intégrité.
Ça devait rester une zone tampon, c'est ça, ça que vous voulez ?
Ça devait rester une zone protégée pour protéger les civils. Là, ce qu'on veut faire, nous, on veut que les civils soient protégés là où ils sont, à Idlib. On ne veut plus qu'il y ait plus d'afflux migratoires vers nos frontières. On veut qu'il y ait un cessez-le-feu dans le théâtre syrien pour donner une chance à ce processus politique, parce que si Idlib tombe, cher monsieur, si Idlib tombe, le processus politique va tomber en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le régime syrien aurait pour de bon gagné et le régime n'aurait aucune raison, aucune incitation oui. pour aller négocier à Genève ou ailleurs.
Oui, mais c'est l'objectif de la Russie. Comment pouvez-vous espérer, imaginer que Vladimir Poutine lâche son allié Bachar el-Assad et renonce à cet objectif de reconquête entière, complète du territoire syrien ?
C'est là, c'est là qui se trouve la clé de la question. On a l'impression que Bachar el-Assad et ceux qui le soutiennent, dans une certaine mesure la Russie, ils croient toujours... Il semble toujours croire à une solution militaire. Alors que nous, les Occidentaux, les Turcs compris, nous pensons plutôt que c'est un processus politique qui pourrait nous mener à la paix dans la région. Mais cela étant, nous avons aussi commencé le processus d'Astana avec les Russes. Alors que le processus à Genève était bloqué, on a quand même pu réaliser certaines avancées. Il faut le reconnaître aussi. Alors que rien ne pouvait avancer ailleurs, donc on a pu avancer avec les Russes oui. également. Mais là, les prétextes que les uns évoquent toujours, Russes compris, oui, dans la zone d'Idlib, il y a des éléments terroristes. Mais bonjour, nous le savons, au vu au sud de tout le monde, quand on a évacué les gens dans l'Est Ghouta, souvenez-vous, journaliste averti que vous êtes, vous le savez. Quand on a fait la même chose, quand il y avait cette catastrophe humanitaire dans la région de Alep, qu'est-ce qu'on a fait ? On a procédé à une évacuation dans des bus effrités par le régime. Certains éléments djihadistes ont été évacués. Vers où ? Vers Idlib, justement. On comprend pourquoi. Aujourd'hui, pour prendre prétexte une présence de d'un certain nombre de djihadistes oui. pour bombarder les civils. Oui. 3 millions et demi de civils dans cette région-là.
Monsieur l'ambassadeur, pardon de vous le dire comme ça, mais ce n'est pas un peu gonflé d'appeler aujourd'hui à l'aide les alliés de l'OTAN, ces alliés occidentaux que vous avez laissé tomber pour pactiser avec Moscou ?
Pas du tout, nous n'avons pas pactisé du tout avec Moscou.
Ah bon ?
Pour vous dire, franchement, pas en tant que responsable diplomatique, mais en tant que citoyen turc, je puis vous dire que dans toutes les instances internationales, à l'Union européenne, à l'OTAN, aux Nations unies, dans des forums multilatéraux, et aussi au niveau bilatéral, nous avons toujours échangé et attiré l'attention de nos amis et alliés, la France comprise. Ça n'est pas aujourd'hui que nous venons demander quoi que ce soit. Dans le cadre de l'OTAN, c'est peut-être, je ne sais plus combientième, mais peut-être sixième, septième échange de vues en la matière. Dès le début, nous avons attiré l'attention à la gravité de la situation. Pour ce qui concerne la nature de nos relations avec la Russie, il ne faut pas se tromper du tout. Et il ne faut pas se fier aux préjugés du tout. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginez un autre pays dans notre situation. Nous sommes dans cette région-là, la Russie est dans cette région-là. Le fait que nous développons des relations fructueuses avec l'Europe, nous sommes alliés au sein de l'Alliance Atlantique, mais ça n'empêche pas notre pays d'avoir des relations avec la Russie. Et je vais quand même donner cet exemple. Pardon. Qu'est-ce qu'a fait la France à partir du mois d'août dernier, a raison, et j'applaudis l'initiative. La France aussi a pris cette décision en disant que même si on a des désaccords, comme nous d'ailleurs, avec les Russes, mais il faut dialoguer, il faut parler, il faut s'engager. On n'a pas fait plus.
Et le dialogue va se prolonger, il y aura une rencontre Erdogan, Poutine, dans quelques jours, bientôt ?
Oui, il est prévu qu'il y ait une rencontre la semaine prochaine. Il se peut que ça soit le 5 mars prochain.
À Moscou ?
À Moscou. C'est pas encore annoncé définitivement le lieu, mais il y aura une rencontre.
Je reviens à ma question de début, monsieur l'ambassadeur.
Oui.
Vous demandez aux Européens de faire pression sur Moscou pour une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne, ou pour qu'il y ait.
Merci d'évoquer la chose. Nous avons dès le début de la crise syrienne demandé et soutenu l'établissement d'une zone aérienne justement pour protéger ces gens, ces civils. Nous n'avons pas été entendus. Et aujourd'hui, on comprend combien la Turquie et la France aussi, parce que la France avait soutenu, et je me permets de remercier encore une fois au nom de mon pays, nos amis français qui avaient cette attitude lucide, n'est-ce pas, à l'époque, de soutenir l'initiative. S'il y avait, par exemple, une zone aérienne, une zone de protection, quel que soit l'intitulé exact, aujourd'hui, ces civils ne seraient pas bombardés par le régime. Oui. Ça, c'est capital.
Encore faut-il que la Russie accepte...
Oui, il y a les Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité, mais là, il n'y a pas seulement la Russie. Il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a la Chine, etc. Donc, on avait proposé justement une décision de la communauté internationale, pas seulement des Russes, ni des Turcs. Voilà.
Merci Ismail Akimoussa, ambassadeur de Turquie en France. Merci d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.
C'est pas comme vous.
Dans un instant, le manifeste politique du grand rabbin de France, Haïm Korsia.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé demain.